Radio Kapi.
L'actualité ne s'arrête jamais et sur Radio Kapi, nous sommes là pour vous en livrer l'essentiel. Merci de rester fidèle à notre antenne. Voici votre journal d'information présenté par Gisèle Cage. Cambriolage aux cliniques universitaires de Mbujimayi. Des hommes armés ont attaqué le pavillon de médecins stagiaires dans la nuit de samedi à dimanche, blessant un médecin et emportant plusieurs biens. Une situation qui soulève des questions sur la sécurité des établissements de santé dans le Kasaï oriental. Sommet de la SADC à Antananarivo. Lors du 45e sommet de chefs d'État et de gouvernement, le ministre congolais de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a appelé ses homologues à prendre en compte l'urgence sécuritaire dans l'est de la RDC au-delà des priorités économiques. Choléra à Matadi, 9 cas suspects enregistrés en 5 jours, un décès déjà signalé. Entretien avec le docteur Christian Kouzoma, médecin chef de la zone de santé de Matadi. Il revient sur les circonstances de cette flambée, des mesures prises et les défis à relever. Pour ouvrir ce journal, cap sur Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental où un cambriolage inédit a visé les cliniques universitaires dans la nuit de samedi à dimanche. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans les pavillons de médecins stagiaires de garde, blessant l'un d'eux et emportant plusieurs biens, notamment des ordinateurs, téléphones, sacs et effets personnels. Une attaque qui soulève des sérieuses inquiétudes sur la sécurité des infrastructures médicales dans la région. Les précisions d'Esther.
D'après le médecin stagiaire, des hommes armés ont fait irruption dans la cellule destinée aux médecins stagiaires. L'un d'eux a réussi de voler les sacs, le téléphone et l'ordinateur. Il a été maîtrisé alors qu'il tentait de s'enfuir. Après l'altercation avec le médecin stagiaire, il a fini par prendre le large. Pour chasser, un membre de cette bande a tiré des balles sur la jambe du médecin stagiaire. Blessé, il est actuellement pris en charge. Les autorités des cliniques universitaire affirme que la vie du médecin stagiaire n'est pas en danger. Certains observateurs souhaitent que les cliniques soient suffisamment éclairées et la sécurité renforcée pour protéger le personnel ainsi que les malades. Interrogé, le maire dit être disposé à renforcer la police universitaire qui assure la sécurité sur ce lieu. Signalons que c'est la première fois qu'un incident du genre s'est produit dans un centre hospitalier. Dans la fina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Autre fait marquant de ce jour, Nord Kivu, une vingtaine de députés provinciaux ont adressé une lettre au gouverneur pour dénoncer le non-paiement des agents provinciaux depuis 3 mois. Dans leur correspondance datée du 15 août, ils accusent le gouverneur de priver l'Assemblée provinciale de sa quote-part, de violer l'ordonnance sur l'état des sièges. En réponse, le gouverneur Évariste Kakule-Somo rejette ces accusations. Il affirme que les paiements interviendront dans la semaine après un contrôle physique des effectifs. Il rappelle également que la province n'a reçu qu'une seule tranche de rétrocession en 6 mois, ce qui freine le fonctionnement normal des institutions. Évariste Kakule-Somo au micro de Marcel Papimokeba.
Nous sommes aux commandes de la province depuis 6 mois. Nous avons réussi à payer les agents du gouvernement 4 fois. Nous avons dit nous n'allons pas payer le 5e mois sans que nous puissions faire un contrôle physique. Le contrôle physique est achevé. Maintenant, la semaine qui commence ici, les gens vont être payés. Avant moi, l'on m'a dit les agents étaient payés grâce à la rétrocession venant de Kinshasa. Nous avons reçu cette rétrocession une seule fois depuis que je suis là. Mais ça fait 5 mois qu'ils vont être payés. Donc, nous faisons des efforts. Ce que disent les députés, ça n'engage que. Ce n'est même pas tous les députés, c'est une partie. Il faut qu'ils fassent aussi très attention pour ne pas se faire manipuler. Quand on est un représentant du peuple, c'est quand même beaucoup de choses. Nous avons réussi non seulement à installer l'administration provinciale pour le gouvernorat, mais aussi, malgré l'état des sièges, nous avons installé l'Assemblée provinciale et nous intervenons en faveur de cette Assemblée provinciale et des députés. Donc, je n'ai pas compris le sens de leur mémorandum.
Et puis, dans ce journal également, dans la province du Maniema, la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP, sort de son silence après les violents affrontements survenus le jeudi 14 août entre le Ouazalendo et les forces de l'ordre qui ont fait 9 morts et plusieurs blessés. Dans un communiqué publié ce week-end, le CDJP condamne fermement ces attaques et appelle à la sécurisation de la population et de ses biens. Elle adresse également des recommandations aux autorités à tous les niveaux ainsi qu'au Ouazalendo pour éviter que de telles violences ne se reproduisent. Pour en parler, nous écoutons Maître Baudouin Mouchaba Salé au micro de Florence Kizalunga.
Aux autorités tant nationales que provinciales de s'assumer et de jouer pleinement leurs prérogatives de sécuriser la population et leurs biens. De mettre fin au phénomène Ouazalendo qui devient un problème de la société et une nouvelle menace sécuritaire au lieu d'être une solution à l'insécurité que connaît la population. De sanctionner judiciairement les personnes à l'origine de ces affrontements. De prendre en charge les soins de santé des civils blessés lors de ces affrontements, d'indemniser tous ceux qui ont perdu leurs biens et de réparer les châteaux d'eau d'Azerep et Big Five dans le cours de l'eau. À la population de se désolidariser de Ouazalendo et de les encourager à rejoindre l'armée nationale ou à reprendre leurs activités habituelles. À la coordination de Ouazalendo et à ses membres de prendre conscience de ce qu'ils imposent comme terreur ou qu'ils causent comme frustration et dégâts à la paisible population et de se retourner dans leurs milieux respectifs pour prendre leurs anciennes activités d'auto-prise en charge.
Poursuivons ce journal avec le 45e sommet de la SADC qui s'est tenu du 15 au 17 août à Antananarivo, capitale de Madagascar. Alors que les discussions étaient centrées sur les enjeux économiques régionaux, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a détourné l'attention pour alerter sur la détérioration de la sécurité dans l'est de la RDC. Un message fort adressé aux dirigeants de la région dans un contexte marqué par une instabilité persistante dans cette partie du pays. Les précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Représentant le chef de l'État à ses forums sous-régionales, le vice-premier ministre de la Défense nationale a dénoncé avec force les agissements des rebelles de la FCM23 soutenus par les Rwandais. Guy Kabombo Mwadiamvita a ainsi appelé à une action collective et solidaire pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Le patron de la Défense nationale a également réaffirmé la détermination des forces armées de la RDC à défendre l'intégrité nationale tout en appelant à une solidarité régionale pour une paix durable. La RDC a également exprimé son engagement envers les processus de paix de Luanda et Nairobi tout en soulignant que le peuple congolais attend des résultats probants. Ce sommet de la SADC a validé une fusion des mécanismes et des médiations entre la SADC, l'EAC et l'Union africaine dans le but d'harmoniser les efforts de paix et de renforcer le leadership continental face aux crises régionales. Ce sommet, placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation », a marqué un tournant diplomatique pour Madagascar qui a officiellement pris la présidence tournante de cette organisation sous-régionale.
Ituri vit depuis ce dimanche au rythme d'une campagne de collecte de sang lancée par le Centre provincial de transfusion sanguine. L'opération a débuté dans les églises avec pour objectif de répondre aux besoins urgents des patients, notamment les enfants déplacés et autres victimes du conflit armé, pris en charge dans des structures sanitaires locales. Le coup d'envoi a été donné à la paroisse catholique de Nyakasanza à Bounia où des centaines de fidèles ont répondu à l'appel en donnant volontairement leur pour sauver des vies. Un geste fort de solidarité salué par les autorités sanitaires et humanitaires. Isaac Remoyope nous fait le point.
Des milliers de fidèles de la paroisse catholique de Nyakasanza ont été sensibilisés dimanche au don bénévole des sangs lors des 4 messes de la journée. À la sortie, des centaines de volontaires se sont inscrits pour répondre à ces besoins. Le tout premier candidat a été l'abbé Kiré lui-même. Il justifie son geste par les soucis de sauver des vies humaines dans un contexte d'insécurité en Ituri qui fait de nombreuses victimes nécessitant du sang. Abbé Florate Djombo.
La question vraiment de se mettre à la place de l'autre. Et c'est comme ça que nous avons accepté spontanément la question de sauver la vie.
Même réaction chez plusieurs fidèles et mis par les sorts des plus vulnérables, enfants déplacés par la guerre et femmes enceintes qui luttent contre la mort dans les hôpitaux faute de sang. L'un d'eux.
J'ai appris à la radio, les gens meurent à l'hôpital, on ne les donne pas le sang. Ce qui m'a poussé pour sauver d'autres gens.
De son côté, les responsables du centre de transfusion sanguine à Nitori soulignent que la demande est largement supérieure au stock disponible. Il encourage la population de Bounia à se mobiliser pour sauver des vies par les dons de sang. Docteur Honoré Lubumba.
Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de besoins de sang, mais il n'y a pas une grande quantité de sang, malheureusement.
Selon des sources médicales, cette campagne va se poursuivre dans d'autres églises de la ville de Bounia afin de relever ces défis. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Poursuivons ce journal avec un sujet lié à la technologie et à l'entrepreneuriat numérique. Les smartphones, qu'il s'agisse d'Android ou d'iPhone, peuvent devenir des véritables outils générateurs de revenus à travers les réseaux sociaux à condition d'être bien utilisés. Face au chômage qui touche particulièrement la jeunesse congolaise, plusieurs observateurs interpellent sur les opportunités qu'offre l'économie numérique. Pourtant, beaucoup ignorent encore comment transformer leur téléphone en source de revenus. Comment tirer parti des réseaux sociaux pour se créer des ressources financières? Denise Loukesso s'est penchée sur la question et nous propose ce reportage.
Mon téléphone, je l'utilise plus souvent pour les vidéos qui circulent sur TikTok, Instagram, Facebook.
À l'instar de nombreux autres jeunes, Ruth Ngumbu utilise son téléphone que pour des futilités, dit-elle. À l'heure du numérique, les réseaux sociaux, à partir du téléphone mobile, ne servent plus seulement à partager des photos ou des vidéos. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou encore X sont devenus des véritables plateformes économiques et machines à générer de l'argent. Le commerce en ligne se développe aussi bien sur ces plateformes. Acheter ou vendre un produit directement depuis une application est devenu banal. Cette dame témoigne comment elle a vu son business propulsé grâce à Facebook.
J'ai débuté mes activités grâce au téléphone. Quand j'ai ramené un peu de marchandises, j'ai commencé par un cercle restreint, j'ai partagé des messages via WhatsApp. Mais le boom, c'était vraiment grâce à Facebook. Donc c'est là vraiment que mes ventes ont explosé, des commandes.
Les réseaux sociaux sont devenus un écosystème économique à part entière. Ils offrent aux individus et aux entreprises de nouvelles opportunités pour générer des revenus. Jusqu'à présent, en RDC, cette économie virtuelle n'est pas encore passée sous l'autorité des régulations du pays.
Dans le reste de l'actualité au sud Kivu, l'état critique de la route Mwenga-Bukavu suscite l'inquiétude. Fortement dégradée, cette voie essentielle devient de plus en plus impraticable, affectant également plusieurs ponts sur son tracé. Les usagers expriment leur inquiétude face aux risques croissants, tandis que les acteurs locaux appellent à une réhabilitation urgente. Ils interpellent notamment les entreprises minières opérant dans la région, les invitant à contribuer à la remise en état de cette infrastructure vitale. Un sujet signé Ronelli Timbonera.
Considérée comme l'une des voies stratégiques reliant la ville de Bukavu au territoire de Mwenga, cette partie de la route nationale numéro 2 souffre d'un manque criant d'entretien. Chauffeurs et commerçants y traversent un véritable calvaire pour relier les deux entités. Une situation qui irrite profondément les présidents de la société civile locale.
Ces sociétés-là sont les premiers destructeurs par leurs engins roulants. Ils en profitent pour évacuer leurs engins, leurs effets de travail, mais aussi c'est eux, par leurs engins lourds, ils endommagent et les ponts et la route. C'est pourquoi ces problèmes à la base de la situation tellement calamiteuse de notre population, la hausse des prix des premières nécessités qui affecte négativement donc les paniers de la ménagère.
Conscient de l'ampleur du problème, l'administrateur du territoire de Mwenga ne passe pas par quatre chemins. Dans une correspondance datée du 15 août, Waloubila Mahon enjoint toutes les sociétés exploitant le minerai à Mwenga de considérer la réhabilitation de cette route comme une urgence absolue. Dans ses documents, elle demande à chacune de 8 sociétés actives dans le secteur minier de mettre à la disposition d'une commission ad hoc, des excavatrices, une chargeuse, 2 camions bennes et du carburant. À ce jour, les coopératives minières de Mwenga n'ont pas encore réagi à cette demande. Le territoire de Mwenga est pourtant reconnu pour sa forte production d'or dans la province d'ici Kivu, ce qui renforce les attentes de la population en matière de responsabilité sociale des entreprises.
Actualité internationale.
Le général Razani Mafouania a suscité une vive polémique après avoir déclaré lors d'une visite officielle en Iran que l'Afrique du Sud partageait des objectifs communs avec Téhéran. Il a également critiqué les actions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie. Le gouvernement sud-africain s'est rapidement distancié de ses propos, rappelant que la politique étrangère relève exclusivement de la présidence. Le ministre de Relations internationales a souligné que le général n'était pas autorisé à parler au nom du pays. L'Alliance démocrate réclame une cour martiale, estimant que le général a outrepassé ses fonctions. À quelques mois de sa retraite, il devra s'expliquer devant le président Cyril Ramaphosa dans le prochain jour.
L'invité.
La zone de santé de Matadi, située dans la ville du même nom, dans la province du Congo central, vient de notifier ses 9 premiers cas suspects de choléra. Ces cas ont été enregistrés en l'espace de 5 jours seulement et malheureusement, un décès est déjà à déplorer. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le docteur Christian Kouzoma, médecin chef de la zone de santé de Matadi et s'entretient avec Nana Pleuriche Mambou.
Docteur Christian Kouzoma, bonjour. Quel est l'état des lieux du choléra aujourd'hui dans la zone de santé de Matadi?
Depuis les 12 jusqu'à aujourd'hui les 16, 9 cas de suspicion du choléra que nous avons enregistrés, dont un décès. Deux personnes sont déjà sorties au niveau de l'hôpital et les restes, nous les avons, n'est-ce pas, hospitalisés au niveau de notre centre de traitement de choléra. Notons que ce sont des cas de suspects choléra. Nous attendons encore que nous puissions avoir la confirmation de cette épidémie. Mais il faut savoir que nous avons comme lien de causalité de tous ces cas la rivière Mbumba. C'est une rivière qui se retrouve à Tsunampangu où vous avez la population des Matadi qui traverse la rivière Mpozo pour aller réaliser leur jardin là-bas et revient la nuit. Vous avez aussi la population de Tsunampangu qui travaille au niveau de ces jardins et qui viennent à Matadi pour, n'est-ce pas, vendre leurs histoires.
Il faut attendre combien de temps pour avoir des résultats du laboratoire provincial?
Oui, en fait, nous avons dit que tous les malades, nous avons prélevé, les échantillons se trouvent au niveau du laboratoire provincial. Les laboratoires vont réaliser ce qu'on appelle la culture, ou bien le PCR, pour avoir la confirmation de cette maladie. Et donc, la confirmation de cette maladie peut prendre du temps pour que nous puissions avoir le rendu du résultat. Nous sommes derrière ça, je pense, dans quelques jours, nous aurons, n'est-ce pas, la confirmation. Ce que nous avons, nous, ce sont des cas suspects qui présentent la clinique en rapport avec la suspicion du choléra. Et donc, ce sont des malades qui présentent la diarrhée, le vomissement, et cette diarrhée-là, c'est une diarrhée qui est rigiforme et qui prend la forme de l'eau des riz.
Mais comment est-ce que la population peut reconnaître un cas suspect du choléra?
C'est simple. C'est ce qu'on appelle la définition communautaire, au fait, du choléra. On nous dit une personne qui présente la diarrhée. Une diarrhée qui est abondante. Et une diarrhée qui a la couleur de l'eau des roches. Ou carrément, de l'eau des riz. Vous voyez, à l'ingala, c'est qu'on dit maya losso. Quand vous êtes en train de bouillir le riz, c'est ce qu'on appelle maya losso. C'est cette couleur-là que cette diarrhée donne. Et le caractéristique est que c'est une diarrhée qui est abondante, très abondante, avec des vomissements qui peut encore créer de la fatigue, des crampes musculaires, voire même, n'est-ce pas, l'asthénie et qui peut amener à la mort. Donc, lorsque la communauté voit qu'il y a une personne qui fait la diarrhée, une diarrhée importante, abondante, de couleur rugiforme, rapidement, il faut amener les malades auprès d'un établissement pour que cet établissement puisse nous renvoyer les malades ici pour une bonne prise en charge. Ou carrément, vous appelez la zone de santé à travers le numéro 089 50 13 057. Avec ce numéro, une ambulance est mise en œuvre pour transporter les malades jusqu'au niveau du centre de traitement.
Docteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la gestion, dans la riposte et dans la prise en charge des cas?
Les difficultés, il y en a beaucoup en rapport avec, n'est-ce pas, toutes les différentes commissions que nous avons créées. Ce sont plus des difficultés liées à la logistique. Vous avez les équipes de surveillance qui doivent à tout moment descendre sur le terrain pour aller investiguer des cas lorsque nous recevons un appel. Ils doivent avoir des carburants, des moyens de transport pour descendre sur terrain. Les cas contacts que nous avons doivent être suivis. On n'a pas des possibilités, des moyens nécessaires pour suivre tous les cas, contact et quadriller l'infection juste à un certain endroit. Ça aussi, c'est un problème pour nous. Nous avons des difficultés aussi en rapport avec la prise en charge. Dans les médicaments, actuellement, ça ne pose pas des problèmes, mais si nous avons beaucoup de malades, on aura, n'est-ce pas, une rupture en termes de antibiotiques qu'il faut donner auprès de malades. Nous avons des difficultés liées à la prise en charge en termes d'autres intrants qui interviennent la prise en charge de ces malades, comme des épis aussi. Nous avons des difficultés en rapport avec la communication. Parce qu'en principe, nous avons briefé les RICOs, mais ces RICOs-là doivent descendre sur terrain pour aller réaliser les activités de communication. On n'a pas de dépliants en question pour informer la communauté en rapport avec cette maladie.
Docteur, aujourd'hui, quel message vous pouvez lancer à la population des Matadi?
Il faudra que la communauté puisse, d'abord, bouillir de l'eau, sinon pas la possibilité d'acheter un désinfectant. Il faut bien cuire la nourriture. Il faudra éviter de faire caca partout.
Docteur Christian Kouzouma, médecin chef des zones de santé des Matadi, nous vous remercions.
Merci au docteur Christian Kouzouma pour ses éclaircissements sur la situation du choléra dans cette région. Nous espérons que les mesures de riposte permettront de contenir rapidement cette maladie. L'entretien était conduit par Nana Pluriche Mambou. Ainsi s'achève cette édition du journal à la mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Présentation assurée par Gisèle Cage, coordination éditoriale Lievin Mbuinga, supervision Alain Hong. Merci pour votre écoute attentive et votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Radio Okapi et sur nos plateformes numériques. Restez informés, restez connectés.